Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Je suis dans les studios de Die avec Chloé Guilhem, qui est projectionniste et médiatrice au cinéma Le Pestel, pour parler de films féministes, de cinéma féministe.
Et d'œuvres d'art.
Et d'œuvres d'art.
Et de films qui ont marqué leurs époques.
Et tu vas peut-être nous dire, nous expliquer un peu, selon toi, qu'est-ce qu'un film féministe ?
Donc oui, merci Alice. Alors, selon moi, on peut distinguer en fait plusieurs catégories. Enfin, c'est très large en fait quand on parle de film féministe, de quoi on parle exactement. Donc moi, je vois quatre catégories que je vais développer un petit peu. Déjà, je vois les biopics, je vois les films qui retracent des luttes féministes. Je vois les fictions qui vont mettre à l'honneur des personnages féminins, vraiment en faire le cœur de leur film. Et je vois des documentaires. Donc je vais développer un tout petit peu en donnant des exemples. Tout d'abord, les biopics. Moi, je trouve que c'est un choix très intéressant déjà et qui est un peu en train de en plein essor, on va dire. Les biopics, qu'est-ce que c'est ? Bah, du coup, c'est un genre cinématographique qui consiste à faire un film à partir de la vie de quelqu'un qui a existé. Bien sûr, c'est un film romancé, c'est historique, enfin, c'est inspiré de l'histoire, mais bien sûr, on brode et il y a forcément des éléments fictifs. Ça met vraiment à l'honneur des femmes qui ont eu un destin vraiment inspirant, qui ont marqué leur époque à leur manière. Donc ça, il y a plein d'autres œuvres d'art et œuvres culturelles qui font la même chose. Il y a en ce moment beaucoup de livres qui reviennent sur les femmes de l'histoire, que l'histoire a oubliées. Et ça, il y en a plein et je vous les recommande tous, évidemment. Mais bref, donc les biopics, c'est vraiment ça. Quelques exemples, ça va être Frida de Julie Taymor, qui va revenir sur Frida Kahlo, donc toutes ses inspirations et ce qui l'a nourrie dans sa créativité, on va dire ça comme ça. On pense aussi aux Figures de l'ombre de Théodore Melfi. Alors ce film, vraiment, si vous pouvez le voir, je vous le recommande. Il raconte l'histoire des scientifiques afro-américaines à la NASA, donc qui ont vraiment œuvré à travailler à tout le programme de l'espace américain et qui ont pas pour autant eu une reconnaissance au même titre que leurs collègues blancs.
Vous avez vos papiers ?
NASA, monsieur l'agent.
Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des
femmes. Il y en a beaucoup qui travaillent au programme spatial.
Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale.
Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire.
Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici.
Vous devriez être ingénieur.
Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible.
J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible.
Le système de traitement de données IBM.
Nous devons apprendre à le programmer.
On peut citer Une femme d'exception de Mimi Leder. Enfin, il y en a plein. Et des biopics qui mettent à l'honneur des femmes au destin inspirant. Vraiment, je considère que, sous un certain aspect, c'est des films féministes. Il y a des biopics qui ne sont pas forcément réalisés par des femmes. Donc voilà, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'un film féministe est forcément réalisé par une femme ? Bon, la question reste à se poser, je n'ai pas exactement la réponse. En tout cas, nous, là, dans le cadre de la journée de lutte internationale pour le droit des femmes, on avait décidé de mettre à l'honneur des films réalisés par des femmes. Ensuite, dans un second temps, il y a des films qui retracent des luttes féministes. Donc là, clairement, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est évidemment Les Suffragettes de Sarah Gavron, qu'on a passé donc, dans le cadre un petit peu de cette semaine. Donc Les Suffragettes qui va directement évoquer le combat des féministes et des suffragettes donc, en Angleterre, qui a débouché sur l'obtention du droit de vote.
J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans, et puis je passais à plein temps à 12 ans.
Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts ? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains.
Tout le monde s'en tape, ma jolie.
Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord?
Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire.
Tu es une femme mariée, tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place.
Eh bien, je n'accepte plus cette idée.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement.
Le droit de vote pour les femmes!
Nous allons frapper au cœur des communications.
Mon travail est de faire respecter la loi.
Je m'en fiche! On m'a pas demandé mon avis sur cette loi.
On vous mettra hors d'état de nuire.
En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous ne nous arrêterez pas toutes.
Donc ça, je considère que c'est une autre grande famille de films féministes parce que ça retrace directement ces luttes. On peut évoquer en France La belle saison de Catherine Corsini qui va évoquer en filigrane hein, les luttes du MLF à travers ces personnages féminines et d'ailleurs qui va évoquer aussi les relations lesbiennes. Donc ça, voilà, c'est clairement pour moi un exemple. Dans un troisième temps, au sens large, on peut évoquer les fictions qui vont mettre à l'honneur des thématiques et des personnages féminins forts, lesbiens, autres formes de sexualité, enfin LGBTQI+, au sens large. Là, je voudrais évoquer deux réalisatrices. Déjà, Céline Sciamma, qui, elle, donc, fait vraiment figure de référence un peu en France pour être une femme qui assume son homosexualité, qui a réalisé des films tels que Tomboy, Portrait de la jeune fille en feu, La naissance des pieuvres, qui aborde des sujets vraiment très intimes, qui sont ceux de l'identité, qui sont ceux... aussi de vivre son lesbianisme en France. Céline Sciamma, c'est vraiment une figure du cinéma féministe et engagée dans les luttes pour l'égalité homme-femme et contre les discriminations liées au genre et à la sexualité. Donc je trouve que c'est très important de suivre son travail. Son dernier film est passé un peu inaperçu et c'est bien dommage, il s'appelle Petite Maman. Bref, suivons le travail de Céline Sciamma parce que c'est vraiment une référence selon moi.
C'est elle qui a fait Bande de filles.
Exactement, ouais.
Tu parles à qui toi?
Tu fais des commentaires. Elle traverse les rails. Viens. Allez, cassez-vous.
Ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme Victoire. Et là, je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je n'oublierai jamais.
Donc c'est aussi des partis pris voilà, qui sont en tout cas audacieux et qui marquent le cinéma français aujourd'hui. Parce que peu de réalisateurs et de réalisatrices vont sur des sujets pareils. Et j'aimerais aussi évoquer Xavier Dolan parce qu'il a fait... Bah déjà, il a une relation très, très proche avec ses comédiennes. Il y en a plusieurs avec qui il travaille d'un film sur l'autre et à qui il fait vraiment... qui donne une belle partition en fait, dans ses films.
Alors, Anne Dorval.
Oui, voilà, comme Anne Dorval à qui il a vraiment offert des rôles incroyables, notamment dans Mommy.
Il y a Suzanne Clément.
Exactement, Suzanne Clément qui est, il me semble, dans Lawrence Anyways.
C'est le rôle de Frédéric. comme personnage, Frédéric.
Ouais, ouais. Et ben, Laurence Anyways est vraiment très, très, très. Enfin, très bien fait. Et il aborde, comme peu de films l'ont fait, selon moi, le sujet de la transition. En suivant l'histoire d'une personne trans qui va autour de la trentaine, voire quarantaine. Hein, c'est vraiment un changement de sexe et de genre à l'âge adulte et tout ce que ça entraîne professionnellement, dans sa vie de couple, dans le regard des autres. Et je trouve que ce film est féministe et clairement un film qui change, en tout cas, les manières de voir ces transitions.
Alors, quel est votre nom complet ?
Laurence Emmanuel James Alia. Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que Tuture encule ta tave. C'est trop.
Félicitations, Laurence.
Non, mais c'est un petit prix.
Vous boirez un autre santé ce soir en allant chercher ça.
Santé, Sherry.
Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Il faut que je t'aime comme je suis.
Je comprends pas.
Je veux être une femme.
Tu vas être heureux comme ça? Ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous!
Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui.
Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme.
J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas.
On va faire ça ensemble.
Je vous ai pas vu rentrer ce matin, c'est... C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Notre génération est capable de prendre seul. On est rendu là.
Sky's the limit.
Tu te déguises depuis combien de temps?
Depuis aujourd'hui. On pourrait faire une surprise à papa. Je pourrais rentrer avec toi.
C'est quoi le commentaire que t'entends le plus souvent?
C'est spécial.
Et là, c'est vrai que c'est spécial.
On a préféré vous tenir à l'écart, Laurence. Pas vous badrer de ça.
Qu'est-ce que c'est? C'est un article?
Tout va s'arranger, Laurence. On aurait pu ensemble.
Tabarnak, t'as tout un look, toi, Chris.
Oui, allô, maman. C'est moi, c'est Laurence. On pourrait peut-être aller prendre une marche. Parce que ça va pas, maman. C'est important. C'est important.
J'ai jamais eu l'impression que t'étais ma mère.
Mais moi, j'ai jamais eu l'impression que t'étais mon fils. Par contre, j'ai l'impression que t'es ma fille.
Y'a rien, ni personne qui va avaler cette histoire.
Sauf toi, Laurence.
Non, sauf toi.
C'est toi qui as voulu ça, Laurence. On l'a fait, on a essayé, mais tu peux pas tout avoir.
J'ai choisi de descendre la pente dans la peau d'une femme.
Toutes les femmes la descendent.
Après l'avoir montée.
T'as-tu déjà acheté une perruque pour ton chum, toi? T'as-tu déjà eu peur quand tu sors de chez vous qu'il se fasse tabasser dans la rue puis qu'il t'en revienne pas en un morceau?
Du coup, le travail de Xavier Dolan comme étant en tout cas celui d'un allié féministe parce que il traite dans ses films de sujets vraiment très liés à ceux des minorités au sens large, bien que les femmes ne soient pas une minorité, je suis d'accord avec vous, mais voilà, je voulais souligner son travail. Et puis pour évoquer rapidement la quatrième catégorie que je pense très pertinente quand on s'intéresse aux films féministes, il y a évidemment des centaines et des centaines de documentaires qui, une fois de plus, sont à la fois des films sur des luttes féministes. Il y a plein de films en ce moment qui sortent sur les luttes féministes en Argentine, qui sont absolument géniaux. Il y a aussi donc des documentaires sur des personnes, notamment des femmes, qui ont marqué leur époque par leur engagement et par leur lutte pour le droit des femmes. Donc je vais citer rapidement deux exemples. Il y a le film sur Ruth Bader Ginsburg. Désolée pour mon mauvais accent. Donc, le film s'appelle RBG. Et en fait, c'est un documentaire sur cette juge états-unienne, enfin américaine, qui a été la première juge à la Cour suprême des États-Unis et qui a en fait eu un parcours vraiment mais ultra inspirant. Et voilà, il y a eu ce biopic suite à sa mort, enfin un biopic documentaire.
Je ne réclame aucune faveur pour les femmes. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils ôtent leurs pieds de notre nuque.
Ruth Bader Ginsburg est avec nous.
C'est fou de voir une octogénaire devenir une telle icône.
Je peux avoir un autographe ?
J'ai 84 ans et tout le monde veut se prendre en photo avec moi.
Notorious RBG.
Quand on y pense, personne ne se rapproche plus d'une super-héroïne qu'elle.
Ruth Bader Ginsburg a littéralement changé la vie des femmes américaines.
Je suis devenue avocate à une époque où la majorité de la profession refusait les femmes.
Il y avait des milliers de lois qui établissaient une discrimination selon le genre. Elle marchait sur les traces de la bataille pour l'égalité raciale. Elle voulait faire appliquer cette clause à la protection des femmes de la même façon.
Hommes et femmes sont des êtres d'égale dignité et devraient être égaux devant la loi.
Elle a décrit pour les juges masculins la réalité quotidienne de ces citoyens de seconde zone qu'étaient les femmes.
Le fait est que la discrimination pénalise presque inévitablement les femmes.
Je me voyais comme une institutrice de maternelle à cette époque. Les juges ne croyaient pas en l'existence d'une discrimination selon le sexe.
Elle centralise un certain pouvoir à la cour et à l'extérieur.
Chaque fois qu'elle écrivait une opinion dissidente, Internet explosait. J'ai trouvé quelques slogans, mais celui qui revenait, c'était « Dans Truth, il y a Ruth ».
Je ne serais pas dans cette salle aujourd'hui sans les immenses efforts d'hommes et de femmes qui ont su entretenir les rêves d'égalité citoyenne.
Il paraît qu'elle fait 20 pompes, 3 fois par semaine. Nous, on n'en ferait même pas une. On n'arrive même pas à s'asseoir par terre. C'est vrai.
Et une femme d'exception parle en mode fiction aussi de cette femme. Et donc pour revenir en France, il y a un documentaire que j'ai vu qui a vraiment attiré mon attention. C'est un documentaire d'Ovidie qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur » et qui a vraiment bien marqué les spectateurs et spectatrices de Arte quand il a été projeté parce qu'il traite des violences obstétricales.
Tout ce que je peux dire, parce que je ne fais pas la conversation quand on a mal, c'est je leur dis faites une césarienne, parce qu'en fait j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. C'est hyper douloureux. Et je me dis, la suite ça va être quoi? Si ça, ça fait mal comme ça. Et là, la gynéco dit bah non. Non, non, c'est bon, on a presque fini. Elle s'en fout en fait, elle regarde pas en haut. Regarde ce qui se passe en bas. Elle fait la technique, quoi. Elle fait la garagiste. Voilà. Donc non, non, c'est bon, on a bientôt fini. Voilà. Ta gueule. Je suis désolée, mais voilà. J'essaye de me débattre, j'essaye de me relever. Je lui dis qu'elle me fait mal, je lui demande d'arrêter plusieurs fois. Et bien sûr, elle n'arrête pas. J'ai toujours l'autre sage-femme qui m'appuie sur le ventre, qui me maintient aussi. C'est vraiment une sensation désagréable, celle de se sentir comme maintenue de force, en fait, contre ma volonté. Et là, c'est à ce moment-là que je sens un coup de rasoir, comme des coups de rasoir. Elle est en train de faire l'épisiotomie comme ça, et surtout, elle a continué de la faire alors que je la suppliais d'arrêter et que je lui disais qu'elle me faisait mal, quoi.
Il a commencé à recoudre, et dès qu'il a commencé à recoudre, j'ai donné un grand coup et j'ai dit « ça me fait mal, quoi ». Et il a continué à suturer et à me dire de ne pas bouger. Enfin, c'était horrible, ça faisait super mal, ça a duré 45 minutes. Et en plus, il fallait qu'il vérifie si c'était bien suturé, donc j'ai eu droit au toucher vaginal et toucher rectal.
J'ai mis des mois à m'en remettre.
parce que je pouvais plus dormir sans me retrouver dans cette pièce-là, attachée avec des gens autour de moi, avec un scalpel. Et toutes les nuits, je me faisais réouvrir le ventre, quoi.
Et puis finalement, la gynéco a sorti ma fille. Hyper brutale, c'est-à-dire vraiment, là, jetée comme ça, je pense que c'est le côté... Une fois que la mère a le bébé, elle oublie tout, donc on lui file très vite, comme ça, c'est bon, ça sera oublié. Mais non, en fait, moi, j'ai juste pas compris ce que j'ai vu. J'ai vu un bébé, et je viens tout. En fait, l'enchaînement était tel que, vu ce qui s'était passé avant, vu l'horreur que ça avait été avant, j'étais plus dans un accouchement.
Et il a vraiment, selon moi, visibilisé une lutte assez peu... comment dire...
mentionnée, réfléchie, discutée...
Exactement. En tout cas, c'est un vrai travail documentaire sur un sujet plutôt tabou. Et je trouve que ce docu a, d'une certaine manière, vraiment servi le féminisme au sens large, parce que c'est intéressé à un sujet intime et à la fois concentré uniquement sur les femmes et ce qu'elles peuvent vivre au moment de leur accouchement ou de leur consultation gynéco, bref.
Puis je vous le recommande vraiment. C'est des violences qui sont très peu visibles parce qu'elles se passent aussi toujours entre des murs et dans des endroits où on ne rentre pas et où il n'y a pas foule. Et donc c'est vrai que les visibiliser, c'est très important.
Oui, et puis ce qu'elle interroge aussi dans le documentaire, c'est le rapport médecin-patiente. Parce qu'on a souvent été donc dans ces rapports de domination entre un sachant, une personne qui va savoir ce qui est bon pour, soi-disant, pour une femme qui va minimiser ses souffrances, qui ne va pas forcément la prendre au sérieux, ni répondre à ses besoins, à ses demandes, à ses attentes. Et en fait, c'est cette position de sachant qui est aussi très, très, très infantilisant, en fait, qui va être questionnée et évoquée dans le documentaire. Enfin, moi, je sais, quand je l'ai vu, j'avais été très, très marquée. Par tous ces témoignages de femmes, par toutes les difficultés qu'elles avaient rencontrées lors de leur accouchement, parce qu'elles n'étaient pas entendues et pas prises en considération, et qu'elles avaient énormément souffert, qu'elles avaient eu des complications, juste parce que le corps médical, notamment les gynécologues hommes, n'avaient pas pris en considération leurs attentes, leurs demandes et leurs besoins. Donc voilà. Un dernier petit documentaire que je peux évoquer, c'est celui de François Ruffin et de Gilles Perret, Debout les femmes. Alors, il y a sujet, parce qu'il y a un sujet à débat. Est-ce que deux hommes peuvent réaliser un documentaire féministe? C'est vraiment une question. De mon point de vue, oui.
Est-ce qu'ils traitent d'un sujet féministe, mais est-ce que la façon de filmer est une façon, on dirait, féministe? Enfin, c'est là aussi où il y a débat sur ce film.
Ouais, et puis surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est ce rapport où tu as quand même deux mecs, cis, blancs, plutôt âgés, plutôt friqués, qui vont à la rencontre de femmes plutôt racisées, pauvres... Et qui galèrent quoi dans leur quotidien. Est-ce que ce gouffre un peu social entre ces deux populations, on va dire, entre ces deux hommes et ce groupe de femmes, peut déboucher sur un film qui va visibiliser leur combat? Et moi, je trouve que c'est plutôt le cas. Je trouve qu'ils ont eu ce mérite de braquer leur caméra sur ces femmes qu'on oublie trop. Et que rien que pour ça, je les remercie en fait, parce que de par leur notoriété, le film va être vu. Il a été diffusé dans plein de cadres et pas seulement dans le cadre militant. Il visibilise donc ces femmes, les métiers du lien, mais aussi l'impuissance des députés. Et je trouve qu'en ça, c'est un film politique qui a vraiment de l'intérêt, quoi. Et donc, je voulais aussi l'évoquer. J'espère que vous l'avez vu ou j'espère que vous le verrez. Mais Debout les femmes de François Ruffin et Gilles Perret vaut vraiment le détour. Et donc, pour conclure rapidement sur les films féministes, Je vous encourage à découvrir les films réalisés par des femmes, parce qu'il y en a trop peu, malgré la création du collectif 50-50 en 2018, qui vise à promouvoir et à valoriser les films réalisés par des femmes pour avoir cette fameuse égalité, donc 50-50, tant sur les tournages que dans la réalisation. Et je vous encourage bien sûr à voir des films qui mettent à l'honneur des femmes, des personnages forts. Et si vous êtes en panne d'inspiration, il y a plein de festivals, notamment le Festival du film féministe, mais aussi plein d'autres festivals qui font des focus et qui permettent de découvrir des artistes, des femmes réalisatrices qui font un travail formidable. Voilà, je vous encourage.
Tu en regardes, toi, des films féministes ?
Eh bien, ouais, la plupart des films dont j'ai parlé à l'instant, je les ai vus. J'ai des engagements militants qui me poussent à regarder des films engagés, que ce soit sur l'écologie, sur le féminisme, sur la lutte contre les discriminations au sens large, pour l'accueil des exilés, etc. etc. Et je trouve que ces films sont un peu des miroirs de notre société et que... ils nous mettent vraiment en situation de s'identifier à des personnes. Et même si on n'est pas tous des femmes, même si on n'est pas tous des minorités de genre ou qu'on a une sexualité hétéro, de voir, c'est ça, du cinéma sur des personnages autres, ça apporte quelque chose dans notre quotidien, sur notre regard et sur notre tolérance, en fait, tout simplement. Donc oui, je regarde des films féministes, je regarde des films engagés et c'est le cinéma que je préfère. Parce que, comme je te disais, il y a un côté politique et un côté qui ouvre les yeux, quoi.
Est-ce que tu arrives à... encore, d'une certaine manière, à supporter, voir des films qui, justement, ne sont pas féministes où il y a des scènes et des propos, une façon de réaliser qui cache un peu des formes de machisme. Comment t'arrives à gérer ça
Alors déjà, j'ai de la chance de travailler dans un cinéma d'art et essai. Donc il y a plein de films très grand public que je ne vois pas. Clairement, je pense qu'il y a des nouvelles générations de réalisatrices. Je pense que tout un tas de nouvelles et nouveaux artistes qui arrivent et qui sont vraiment sensibles à ces sujets. J'ose espérer qu'ils et elles vont faire bouger les lignes là-dessus. Il y a un podcast que je vous recommande vivement. Ça s'appelle Mansplaining. Justement, ça, je trouve que c'est un podcast très, 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 très riche et qui pose le doigt sur beaucoup de thématiques, justement, parce que dans chaque épisode, ou presque, on parle de séries et ou de cinéma. Et en fait, le journaliste qui réalise ce podcast évoque justement tous les travers qu'il peut y avoir, que ce soit sur le sexisme, sur l'homophobie, et le met en perspective. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter, c'est un podcast Slate qui s'appelle Mansplaining. C'est Thomas Messias, si je ne dis pas de bêtises. Souvent, je regarde si Thomas a fait un podcast sur un film avant d'aller le voir, justement, ou même après l'avoir vu, parce que même un film comme Le Grand Bain, par exemple, qui a été plébiscité tant par la presse que par le public à sa sortie, il a fait un podcast dessus et en fait, il l'évoquait. Des choses que je n'avais pas vues en fait dans le film, notamment le rapport des hommes à leur corps et notamment le fait que c'est beaucoup plus un sujet le corps des femmes dans le cinéma que le corps des hommes. Enfin voilà, il y avait plein de réflexions vraiment passionnantes. Donc ce podcast, je vous le recommande à 100% avant ou après être allé voir des films. Du coup, il a vraiment une richesse, des choses à apporter.
Ok, ben merci à toi d'être venue nous parler de cinéma, du féminisme dans le cinéma et de nous avoir donner toutes ces sources-là qui permettent aussi de faire mûrir des réflexions, de sensibiliser, de partager, transmettre sur ces questions-là.
Eh bien, Alice, je reviens quand tu veux. Et puis, merci pour l'accueil. J'espère que ça vous donnera envie et que ça, si ça peut vous inspirer, c'est tant mieux.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.